Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur et continuer cette série sur le thème « Le véritable ». Et il est question pour nous de la véritable adoration. Il existe à ce jour plein de moyens sur Internet de pouvoir suivre différentes choses et de pouvoir s'inspirer de différentes manières, voire même styles et modes. Mais tout ça, est-ce que ça répond à ce que Dieu attend ? Est-ce que tout ça répond à ce que Dieu veut ? L'apôtre Paul nous dira que Dieu est un Dieu d'ordre et qu'il a établi des choses claires et qu'il souhaite que nos temps de louange, d'adoration soient conformes à sa volonté, soient conformes à son désir. Certes, nous aimons tous chanter. C'est une bonne chose. Amen. Ceux qui chantent à haute voix, ceux qui chantent pour eux-mêmes, ou en tous les cas pour que les autres ils les entendent pas, mais combien de temps passons-nous finalement au long de notre semaine pour louer et adorer le Seigneur ? Que veut-il dire adorer Dieu ? Ce n'est pas que chanter. Dernièrement, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de certaines réunions de prière, dont personnellement je ne suis pas du tout d'accord. Où on met une petite musique New Age en fond. Et c'est, on ne sait pas si on est dans un temps de prière, autant qu'enfant de Dieu, ou si on est en train de faire un moment le vide et de méditation selon d'autres types de cultures et de religions. Moi, je voudrais ce matin remettre quelque chose un peu au clair dans nos cœurs. Tout ce qui nous est proposé n'est pas toujours bon. Il y a des bonnes choses, certainement. Mais faites attention à que ces choses correspondent au modèle que Christ nous a donné. Car elles pourraient finalement nous détourner de louer Dieu. Je vous rappelle qu'une des choses que Satan demanda à Jésus lorsqu'il le tenta, c'était l'adoration. Pourquoi est-ce si important pour Satan d'être adoré ? Pourquoi Satan voulait que Jésus se détourne d'adorer Dieu le Père et se tourne vers lui ? Et vous pensez que cette tentative, ce but, ne demeure pas autant présent dans la volonté de Satan de prendre la place de Dieu, de se faire adorer ? Je vous rappelle qu'il a été jeté depuis le ciel à cause du fait qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et vous pensez qu'il a mis de côté ce projet ? Loin de là. Alors faisons attention à ne pas tomber dans le piège finalement de détourner notre adoration de Dieu. Il y a un texte que nous allons partager entre autres ce matin qui nous donne pas mal de pistes de réflexion. Vous le connaissez bien, je le sais bien, lisons-le ensemble quand même. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Et il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis du bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Et plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Une étrange discussion. Les paroles que Jésus adresse à cette femme samaritaine sont d'une portée extraordinaire. Jésus vient discuter de choses liées à la vie de l'esprit avec une femme qui était répréhensible tant que sur le plan moral que sur ses origines, coutumes et religions. Jésus vient auprès d'un puits et il veut attirer finalement notre attention aussi ce matin sur un certain nombre de détails qui pourraient passer inaperçus mais qui méritent d'être mis en lumière à cause de la portée spirituelle de ces derniers. Je voudrais par la même occasion relever le fait que nos questions et nos intentions peuvent parfois être absorbées par un ensemble de choses qui nous font perdre le vrai sens des priorités. On pourrait se concentrer sur la femme samaritaine ce matin et finalement passer à côté de ce que Dieu veut que nous puissions retenir. Du même texte, nous pouvons tirer plusieurs enseignements. Je dirais qu'il y en a tellement qu'on pourrait faire un séminaire d'un mois, et au bout d'un mois, on aurait encore des choses à dire. Mais Jésus va à la rencontre d'une femme qui vit dans le péché et qui cherche de fuir le regard et le jugement des autres. Jésus s'entretient avec cette femme sur des sujets qui devraient être davantage traités avec des théologiens, n'est-ce pas ? La discussion avec la Samaritaine qui fuit peut être aussi mise en parallèle avec la discussion de Jésus avec Nicodème. Lui aussi, il fuit. Les principes indiquent dans le texte des choses profondes, capitales pour la vie de tous ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur. Je dirais quelque part que quand les occupations de ce monde nous empêchent finalement de vivre notre relation avec Dieu, il faut se poser les bonnes questions. Si vous faites bien la lecture du texte, comme nous l'avons fait tout à l'heure, il y a quelque chose qui ressort, c'est que les pharisiens étaient préoccupés par les scores de Jésus en matière de disciples de baptême. Ils étaient occupés par ça, au lieu de se dire, on a le sauveur du monde devant nous. Vous voyez comment on peut passer à côté de quelque chose de précieux. La Samaritaine, elle était préoccupée par les querelles de clochers, Samaritains juifs, par le manque de moyens pour atteindre le but. Tu n'as rien pour puiser, Jésus. Les traditions religieuses, elles parlent du puits de Jacob et non pas du puits que Dieu a donné à Jacob. Le jugement et le regard des autres, plus que le jugement et le regard de Dieu, ils s'inquiétaient finalement si elles pouvaient éviter d'être vues par les autres. Donne-moi de cette eau comme ça, j'ai réglé un problème. Les autres ne me verront pas et moi, je n'ai pas besoin de les voir. La position géographique pour rendre un culte à Dieu plus importante que la disposition du cœur et de l'âme. Alors ce matin, j'aimerais nous attarder un peu sur ce que Jésus va dire. Et la première chose que le Seigneur nous invite, c'est à chercher de l'eau vive. En lisant ce texte, oh combien de fois nous l'avons examiné, on sait de quelle soif le Seigneur peut finalement nous libérer, n'est-ce pas ? Mais c'est pas juste une question de soif, c'est une question de produire en nous quelque chose qui va finalement changer notre avenir. Quand vous allez au supermarché, vous voyez différents types d'eau. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce matin, si on faisait un sondage, il y en a qui aiment eau plate, d'autres eau pétillante. Et après, on commence à regarder telle marque, elle est meilleure que l'autre. Ah non, mais moi, celle-ci, elle me convient plus. Et on a tous un peu le loisir de changer d'eau et de se dire, celle-ci, pour moi, elle me convient. Ah mais non, et moi, il y a eu un jour, on était parti acheter des bouteilles d'eau. Ma femme me dit, moi, j'aimerais cette marque. Mon fils et moi, celle-ci. Et moi, l'autre. J'ai dit, oh. J'ai dit, une bouteille pour tous et tous pour un. Hein ? Soyons clairs, cristalline. Parce que finalement, frères et sœurs, si on revient aux choses de l'esprit, la parole de Dieu nous dit de nous approcher du Seigneur comme une biche assoiffée. On est souvent tendant à chercher ce qui nous satisfait, plus qu'à ceux qui satisfont Dieu. Si je viens au Seigneur pour qu'il me donne. Mais finalement, quand est-ce que je viens au Seigneur pour donner ? Qu'est-ce qui est louer le Seigneur ? Qu'est-ce qui est adorer Dieu ? Prier ? Ok. Et dans notre prière, qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous donnons à Dieu ou est-ce que nous demandons à Dieu ? En réalité, on devrait davantage avec sa grâce et nous le faisons et Dieu soit loué. Mais on peut mieux faire. Apporter davantage notre adoration à Dieu et le rendre encore, lui rendre un témoignage autour de nous de tout ce que le Seigneur accomplit dans notre vie. Certes, mais ce qui est le plus important, c'est de ce que Dieu représente dans notre vie. On peut chacun de nous de dire, le Seigneur, cette semaine, il a fait ça. Ok, très bien. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que Dieu est dans ta vie ? Ce que Dieu représente dans ta vie ? Ce que finalement Dieu œuvre dans ton cœur, dans ton âme, pour t'amener à réaliser sa puissance, son autorité, sa grâce dans ta vie ? Alors, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 42, versets 2 à 3, « Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. » Et il précise, « du Dieu vivant. » Amen. Seigneur, j'ai soif de toi. Est-ce que nous avons soif du Seigneur ce matin ? Parce que quand il nous propose un verre d'eau, il ne faut pas lui dire, « Seigneur, mais moi j'aurais préféré du champagne ce matin. » Nous, parfois, le Seigneur nous offre un verre d'eau, on dit non, mais tu n'en as pas pétillante, Seigneur. Tu vois le style que j'ai, moi, il faut un truc. Seigneur te dit non. Les bulles, ça monte au cerveau, c'est pas bon. Arrête-toi, calme-toi, prends de l'eau qui va changer ta vie. Finalement, réalise de quoi tu as vraiment soif. Qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce que tu cherches le puits des traditions, de la religiosité ? Qui demande toujours des moyens et des efforts humains et qui en effet de brefs réconforts. La preuve en est, c'est que la femme, tous les jours, elle devait revenir prendre de l'eau. Et qu'il lui fallait un seau et qu'il lui fallait une corde et qu'il lui fallait plein de choses. Combien de fois on fait des efforts alors que ça devrait être quelque chose qui part de l'intérieur. Je ne devrais pas faire d'efforts pour louer Dieu. Non ? Si Dieu habite mon cœur, il n'y a pas d'efforts à faire. C'est juste ou pas ? Et combien de fois on est là, je vous le dis sincèrement, quand on fait la louange, on a l'impression parfois ça rame. Hein ? On est contre-courant, on est comme les saumons. On remonte la rivière. Et on se dit, mais comment ça se fait ce matin ? On n'arrive pas. Parce que peut-être notre cœur ce matin n'est pas encore rentré dans la bonne... On n'a pas pris le courant là où il fallait. On est rentré avec une idée qu'on est dit, je vais à l'église ce matin, Dieu va me donner. C'est indéniable que Dieu va te donner quelque chose. Mais viens au Seigneur ce matin pour lui apporter. Avant tout. Viens porter ton cœur au Seigneur. Et ne cherche pas les moyens. Hein, si on avait plus de musiciens. Ah Seigneur, si on avait plus de ceci, plus de techniques, plus de techniciens. Il y a des églises, moi je regarde certaines choses des fois, je me dis, mais c'est-il nécessaire tout ça? Je ne voyais pas Jésus s'embourber avec des spots, des fumogènes, des trucs comme ça pour prêcher l'évangile. Il montait sur une barque, la barque d'un homme qui n'avait rien pris toute la nuit et qui finalement il offre au Seigneur ce qu'il a, une barque vide. Une barque qui a connu encore un échec. Il lui donne aussi quelqu'un qui va ramer, mais qui a ramé toute la nuit sans rien ramener. Qui est occupé par les problématiques de la vie, par les besoins de la vie. Il doit certainement se dire, mais qu'est-ce que je vais donner à manger à ma famille ? Vous savez, il n'y avait pas les allocations, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît. Et là, celui qui est monté sur la barque va changer sa vie. Parce que finalement, il l'a laissé rentrer dans sa barque. Est-ce que vous avez laissé rentrer Jésus dans votre cœur ? Oui ? Parce que vous savez ce qui s'est produit après ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Jésus prêche. On est d'accord ? Vous vous rappelez de la prédication du Seigneur ? Qu'est-ce que vous vous rappelez ? La pêche miraculeuse. Vous voyez comment notre attention, elle est tout de suite attirée par les scores. Il a fait le plein. La pêche miraculeuse. Jackpot, il a gagné en un coup tout ce qu'il lui fallait. Mais l'essentiel, c'est que finalement, pour que Pierre fasse ce que le Seigneur lui a dit, c'est que dans son cœur, quelque chose s'est produit, qu'il a dit, Seigneur, on n'a rien pêché, mais sur ta parole, je jette les filets. En effet, la foi de Pierre a été tellement embrasée qui ne pouvait rien faire d'autre que obéir au Seigneur. Est-ce que ta foi est embrasée ce matin ? Parce que si tu es là pour le score, il n'y a pas de score. Ce n'est pas nous qui tenons le score et les comptabilités dans le ciel. Non ? Moi, je prie qu'un jour, il y ait tellement de baptêmes qu'on ne puisse pas les compter. Comme ça, c'est réglé. Non ? Tellement de conversions qu'on ne puisse plus compter. Les frères à l'accueil, ils sont et ils disent, on fait comment ? Hein ? Lutin-temps, on a dû faire, pour certaines choses, demander à quelqu'un de compter les personnes dans la salle. Et je le voyais passer comme dans les avions, vous voyez, avec cette petite appareil. Je l'entendais, il avait le pouce qui saignait à la fin. Il dit, aujourd'hui, c'était ça, 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 ça. J'ai dit, bon, et ça change quoi ? Est-ce que tu peux me compter les cœurs qui ont reçu quelque chose ce matin ? Ah, mais non, je ne peux pas. Et moi, je dis, ce qui est plus important, ce n'est pas la quantité de monde. C'est la qualité du cœur. Ce n'est pas la tenue vestimentaire, même si c'est important de venir dans la maison du Seigneur habillé dignement, propre. Le Seigneur ne demande pas forcément d'être en trois pièces ou je ne sais pas quoi. Ce que le Seigneur attend, c'est ton cœur. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. De quel type de source nous parle ? Ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur désire, c'est que l'adoration prenne finalement ses racines dans notre cœur et que ça soit quelque chose qui ressort continuellement, constamment, et que ce soit quelque chose qu'on ne puisse pas bloquer. Amen. Tu te réveilles, tu loues le Seigneur. Alors, j'essaie de me rendormir. Non, loue le Seigneur. Après, tu vas te rendormir. Il n'y a pas de souci. Ça arrive parfois de se réveiller, de ne pas réussir à dormir. Ça vous arrive ? Moi, il y a des fois, je prêche trois fois la nuit. Et j'ai dit dernièrement à ma femme, j'ai passé la nuit à chanter un chant que je ne connaissais pas. Mais ça me trottait, j'arrivais pas à m'en libérer. Mais quel bon moment. Alors, c'est vrai, j'étais pas en forme olympique. Mais bon, je suis sportif non pratiquant, donc ça va. Mais qu'est-ce que j'étais content d'avoir passé un moment comme ça devant le Seigneur. Si l'adoration finalement prend source dans mon cœur, mon frère, ma sœur, quelle qu'il soit la situation que tu traverses, tu auras de l'eau fraîche. ta vie, ton âme, ton cœur seront rafraîchis même quand tu passes par le désert, même si tu es dans des moments où ton âme pourrait ressembler desséchée par les épreuves. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a planté quelque chose dans ton cœur, a installé finalement, il a ouvert les vannes et a dit « Que ton cœur me loue, que ton cœur me glorifie. » Vous lisez les psaumes, vous vous dites « Mais le pauvre David, il était enfermé dans une grotte, il était dans telle situation, mais qu'est-ce qu'il fait dans la grotte ? Il adore Dieu. » Je me suis posé la question, comment est-il possible qu'on puisse donner à David l'appellation « l'homme avec le cœur, selon le cœur de Dieu ». Il n'a pas un parcours sans faute. Mais qu'est-ce qu'il avait, David, par rapport aux autres ? Qu'est-ce qu'il faisait, David, peut-être plus que les autres ? En quoi il avait centré sa vie ? Qu'est-ce qu'il a fait, finalement, cet homme ? Qu'est-ce qu'il avait à cœur, si ce n'est de louer Dieu ? Certes, il n'était pas parfait. Que celui qui est parfait lève le premier la main. Pas le premier, le deuxième. Peut-être le troisième ? Personne n'est parfait. Mais quand vous regardez la vie de David, il nous dit qu'il était là avec ses brebis et louait le Seigneur. Il adorait Dieu. Il avait même construit des instruments. Et le jour où finalement il a commencé, il a pris cette place de roi et qu'il a pu mettre les choses en place, à quoi il a pensé tout de suite ? À mettre des chantres, qu'on puisse louer le Seigneur jour et nuit, qu'il y ait quelque chose de continuel qui se fait. Pourquoi ? Parce que c'était important pour lui. Il avait trouvé en ça la source pour faire face à toutes les épreuves et toutes les difficultés, qu'il soit au niveau de sa royauté, mais même au niveau familial. Je vous rappelle que son beau-père voulait le... Bonjour, beau-père. L'épouse, il le rejette, il le méprise, il se moque de lui. Pourquoi ? Parce qu'il adorait Dieu et louait Dieu. Il peut arriver parfois que notre adoration, notre louange dérange. Mais faisons attention, frères et sœurs, à bien garder cette source que Christ a mis dans notre cœur, pas d'autre source, celle de Christ. Qu'elle soit toujours dégagée, qu'on ne commence pas à mettre des cailloux pour régler les choses, vous savez. Il y a un petit village où ils avaient trouvé une source d'eau magnifique, très bonne, au point que tout de suite les industriels sont arrivés, se sont installés, ils ont mis une fabrique et maintenant le village doit payer l'eau. Satan essaie de faire la même chose. Tu veux louer Dieu ? Paye. Pourquoi, pasteur, à chaque fois que je loue le Seigneur, il m'arrive des tôles ? Est-ce que tu as donné des droits à l'ennemi dans ta vie ? Ou est-ce que tu es prêt finalement à dire « Seigneur, dégage tout ce qui ne va pas de ma vie. Je veux pouvoir te louer constamment, Seigneur, et laisser ma vie te glorifier. » Alors, vous savez, il y a des choses parfois qui arrivent et cette femme, on fait l'exemple. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je puisse finalement ne plus venir puiser ici. » Mais Dieu ne nous donne pas les moyens de fuir. Mais il nous accorde le moyen de régler définitivement. Qui veut régler définitivement les choses ? Vraiment ? Attention, hein, ça dépote. Ah oui, parce qu'après, c'est vraiment quelque chose que tu n'arrives plus à arrêter. Vous avez déjà essayé d'arrêter. Alors imaginez, vous avez, qui a vu déjà les chutes du Niagara ? Tu les as vues de personne ? Tu as été de personne ? Ouais. Tu as essayé d'arrêter l'eau ? Pourquoi ? Pourquoi, Georges ? Un homme costaud comme toi. C'est impossible. Pourquoi ? Pourquoi c'est impossible ? Parce que c'est impétueux, parce que c'est abondant, parce que c'est surabondant, parce que c'est quelque chose qui, finalement, il n'y a rien qui puisse faire obstacle. C'est continuel et il faudrait que la louange de notre cœur pour Dieu soit continuelle, que rien ne puisse l'empêcher, ni les situations, ni les circonstances, ni les problèmes. Seigneur, je te loue. Mon âme te loue, Seigneur. C'est vrai, il y a des problèmes, mais Seigneur, tu vas les balayer, Seigneur. Seigneur, tu vas finalement transformer toute chose. Vous avez, tu as vu autour des chutes de Niagara, je ne suis jamais allé. Hein. Si un jour tu as un ticket en plus, tu me dis, je viens. Hein? Mais autour, c'est vert, non ? C'est juste ? Vous savez pourquoi c'est vert ? Waouh, on ne peut rien vous cacher. Hein. Parce que finalement, vu que l'eau est impétueuse, le vent est là, cette eau est amenée tout autour. Ça arrose constamment, ça pousse. Et le Seigneur voudrait que finalement les choses débordent dans notre vie et que finalement ça pousse même à côté, là où les autres encore, ils n'ont pas eu la possibilité de plonger et de recevoir de la part du Seigneur ce changement de vie, mais que ça va forcément, au fur et à mesure, adoucir leur cœur et dire « Mais pourquoi moi je me prive ? Pourquoi il n'y a pas ça dans ma vie ?» Chercher le Dieu vivant. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que c'est à Jérusalem. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le verset 5 à 8, il y a cette parole qui dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs » et qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour, elle se souvint des paroles de Jésus. Il y a besoin par moment que le Seigneur nous rappelle que nous ne devons pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Nous, parfois, on prend source de notre adoration dans les situations qui sont difficiles, qui sont mortes. Seigneur, je te loue. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer dans la vie, ça m'arrive de pleurer. Voilà. Mais pour autant, moi, je ne veux pas puiser dans la douleur. Je veux puiser en Christ. Christ a souffert ? Est-ce que Christ a souffert ? Et est-ce qu'il m'a caché que je vais souffrir aussi ? Alors, qu'est-ce que je me plains ? Si je souffre pour le Seigneur, je devais être réjoui. Vous savez, comme ces disciples qui ont pris des coups, qui ont été fouettés, et il louait le Seigneur. Waouh ! Nous, on aurait chanté, mais une mélodie différente. Ah, j'ai mal, ça fait mal. Je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me toucher. Parce qu'on est comme ça, on se plaint. Et au lieu de dire, Seigneur, merci, parce que j'ai pris des coups, c'est vrai, mais c'est pour ton nom, et je sais que toi, tu vas changer le mal en bien, Seigneur. On est là et on cherche une mélodie nouvelle. Il y a des chants que j'entends sur Internet. Je suis curieux comme vous. Hein. Sincèrement, c'est des lamentations. Même Jérémie n'y arrive pas. Pourtant, il était connu pour ses lamentations. Mais là, c'est... Wow ! Ce matin, j'en ai entendu deux. Ça m'a... J'ai dit, pitié. Moi, je loue un Dieu vivant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je veux et je désire rentrer dans cette relation encore plus forte, plus intime, plus personnelle, plus douce. Que Dieu nous garde de tomber dans les extrêmes, de croire que l'adoration, c'est l'exubérance. Ce n'est pas ça du tout. Un jour, une femme vient me voir à la fin d'un culte. On était sur Besançon. Et elle me dit, « Pasteur, est-ce qu'on peut venir dans votre église ?» Je dis, « Déjà, ce n'est pas la mienne. » J'ai dit, la porte, elle est grande ouverte, mais vous venez d'où ? Ah, on est à 100 km d'ici. J'ai dit, ça va vous faire un peu difficile tous les dimanches pour venir. Dit, oui, non, mais ça vaut la peine. C'était super le culte ce matin, magnifique. On a senti la présence du Seigneur. Et en plus, je dois vous dire, moi, j'ai le ministère des drapeaux. Je la regarde, je dis, écoutez, moi, j'ai le ministère des ventilos. J'en ai mis 4 dans la salle. Ça ventile bien, je n'ai pas besoin de drapeaux qui ventilent. J'ai dit, ce matin, vous avez vécu un culte devant le Seigneur. Est-ce que c'était bon ? Ah oui ! J'ai dit, ah, pourquoi rajouter des choses qui ne sont que charnelles, humaines, et qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible, elle m'enseigne ? Ah, je ne l'ai plus revu. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas vouloir empêcher qui que ce soit de louer le Seigneur. Non, loue le Seigneur. Mais respecte ce que Dieu te dit. Fais-le selon la volonté du Seigneur. Vous imaginez si tout le monde se levait et commençait à faire ce qu'il a envie. Alors, il y en a 5 qui lient, 4 qui prient, 3 qui chantent, 2 qui discutent entre eux, parce que ça peut aussi arriver. Mais ce n'est plus un moment de louange et d'adoration, excusez-moi, c'est le bazar. Le Seigneur fera que même l'apôtre Paul mettra de l'ordre par rapport aux dons spirituels. Il dira, il y a un temps pour toute chose, non ? Sachant respecter les temps qui sont là. Ah oui, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Je suis d'accord. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est aussi soumis à un prophète où tu peux attendre le bon moment et faire cela en bon ordre. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'à tout moment, on peut se lever, j'ai une prophétie, on coupe le message, on coupe ceci, on coupe cela. Mais je ne crois pas que c'est ça que le Seigneur nous apprend et qu'il nous enseigne. Alors, véritablement, il est question pour nous d'apprendre à écouter Christ et vivre Christ. Jean chapitre 5, verset 25, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Êtes-vous vivant ? Pincez-vous, pour être sûr. Parce qu'on peut croire être vivant, mais finalement, on est mort. On peut être mort à l'intérieur. On peut finalement se trouver dans la situation où on vient devant Dieu, on n'a rien à lui dire. Et on pourrait croire que quelque part, on se dit, Seigneur, c'est normal. Tu sais, j'ai eu une semaine compliquée. Et Seigneur, puisque ce matin, je ne peux pas t'apporter mes problèmes, mais je n'ai rien à te dire. Est-ce qu'on peut déverser au Seigneur que nos problèmes ? Ou est-ce qu'on peut aussi lui dire, Seigneur, heureusement, tu étais là. Heureusement, Seigneur, que tu es celui qui est présent en tout instant. Heureusement, Seigneur, que tu es mon Dieu et mon Créateur, je peux compter sur toi. Seigneur, heureusement que rien peut retenir ta main de changer toute chose. Seigneur, heureusement que ma foi n'est pas sur les choses de cette terre, mais ma foi est en Dieu. Amen. Seigneur, heureusement que ce matin, je suis là à tes pieds parce que je sais que je suis là où je dois être. Seigneur, heureusement que tu es là, heureusement que tu m'as appelé à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est pas compliqué, non ? C'est pas difficile. Est-ce que ça résume finalement le désir de notre cœur ? L'heure vient, dira au verset 23, et c'est maintenant où les vrais adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et ils l'adorent en esprit et en vérité. Trois choses particulières. Nous pouvons adorer Dieu avec la chair. Ce n'est pas la même chose. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur double. Ben oui. Le cœur double, c'est de venir à Dieu que quand on a des problèmes et des besoins. Et après, pour le reste, mon Dieu est ailleurs. Mon Dieu peut être mon travail, mon Dieu peut être la réussite, mon Dieu peut être ceci, cela. Et finalement, je ne donne pas à Dieu ce qui lui revient. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai promis le jour où je suis engagé avec Dieu ? Vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez dit au Seigneur ? Quand vous êtes converti, vous avez dit quoi au Seigneur ? Je te donne mes problèmes. Je te donne mes soucis. Je te donne même mes factures, Seigneur. Tu vois la confiance que j'ai en toi. Mes impôts, Seigneur, je te les donne. Où est-ce que vous lui avez dit, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Qui a dit ça ? Comme ça ou autrement, hein, mais le sens, il est là. Vous avez pu le dire même dans différentes langues, hein, italien, français, peu importe. Le sens demeure le même. Il est question pour nous finalement de nous rappeler à quoi nous nous sommes engagés. Nous ne pouvons pas prétendre parler de la part de Dieu alors que nous aspirons à tirer les regards sur nous. Même là, attention. Si finalement je me lève et je prie ou je chante ou je lis un texte pour que les autres me voient et me disent « Waouh, qu'est-ce qu'il est spirituel !» Ça ne sert à rien. Je dirais mieux rester assis, voire même en silence, et pleurer. Et dire « Seigneur, pardonne-moi. » Parce que ce n'est pas pour ça que je suis venu. Ce n'est pas pour ça que tu m'as sauvé. Adorer Dieu en esprit et en vérité implique de le faire par son esprit et selon ses règles. Lévitique chapitre 10, verset 1 et 2. Waouh, la technique comme elle suit. Les fils d'Aaron Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent des parfums dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Que Dieu nous garde d'amener un feu étranger. Je vous rappelle que même Pierre, il s'est chauffé à un feu étranger. Ce soir-là où il avait finalement avant promis au Seigneur de jamais le trahir, et c'est là que finalement il utilisera même des mots qui n'étaient pas les meilleurs. Que Dieu nous garde finalement de vouloir apporter à Dieu un culte ou des louanges différentes selon les tendances de ce monde. Alors je ne dis pas qu'il faut rester aux ailes de la foi, hein, non, ce n'est pas ça, même s'il y a des chants, waouh. Moi, il y a des chants que je trouve que, par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, certains, c'est de la gnognotte à côté. Hein. Il n'y a pas cette profondeur. On sent que ça transpire quand même quelque chose et que celui qui l'a écrit, « Quel ami fidèle et tendre », vous savez ce chant ? Vous connaissez la source ? Hein ? Cet homme, il venait de partir en mission. Et alors qu'il était parti en mission, sa maman venait de décéder. Et quand il est arrivé sur le terrain de la mission, c'est son épouse qui est décédée. Et il écrira ce chant, « Quel ami fidèle et tendre ». Voyez comment une souffrance peut devenir un chant de louange, d'adoration, au point que pas seulement c'était bon pour lui, mais c'est bon aussi pour nous. Moi, quand je chante ce chant, ça me prend aux tripes. Hein, parce que je reconnais que le Seigneur, c'est cet ami qui nous laisse et nous abandonne jamais. Deuxième chose, Dieu ne regarde pas favorablement l'adoration qui ne coûte pas. 2 Samuel chapitre 24, versets 24 et 25, c'est David qui dira « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes gratuits. » Parfois on vient, ça ne me coûte rien. Hein, on dit « Ça ne te coûte rien de venir à l'église. » Ce n'est pas vrai. Ça doit te coûter. Parce que finalement, tu mets ta vie sur l'autel du sacrifice. Ça doit te coûter non pas parce que ça te prend du temps, mais parce que finalement, tu mets à mort tout ce qu'il pourrait y avoir de charnel est attiré à l'extérieur. Tu dis, Seigneur, non, ça va me coûter, c'est pas grave, Seigneur, je le mets devant toi. Comme cette petite veuve, elle a mis tout ce qu'elle avait, elle a mis sa vie, dit le texte. Si vous prenez le texte original qui parle de l'offrande de la veuve, il dit, elle mit toute sa vie. Est-ce que nous, on met toute notre vie devant le Seigneur ? Je te loue, Seigneur, je te bénis. Et dernière chose, hein. Dernier texte, Romains chapitre 1, versets 18 à 25, il est question d'une adoration dans la vérité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui renient injustement la vérité captive par ce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et n'y ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fou. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Lorsque le peuple hébreu sortit d'Égypte et que finalement Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne et que Moïse prendra du temps parce qu'il passe du temps devant le Seigneur et Dieu lui donne la loi, le peuple, qu'est-ce qu'il fait ? Il aurait dû louer qui ? Et ils ont fait quoi à la place ? Ils auraient dû louer Dieu et finalement ils vont voir et disent mais fais-nous un veau d'or. Et ils ont pris leurs bijoux, ils ont trouvé tous les moyens là, il n'y avait pas de problème de moyens. Et ils ont fait un veau d'or et ils ont agi comme ils agissaient en Égypte. ce qui leur avait coûté déjà 400 ans d'esclavage. Et pourtant, ils venaient de vivre un salut incroyable. Avoir vécu quelque chose de si glorieux, si merveilleux, passer la mer Rouge pied sec. Et de voir comment Dieu avait agi envers Pharaon. Et pourtant, leur cœur s'est vite détourné du Dieu vivant. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, il y avait des choses qui n'avaient pas été déracinées. Je l'ai déjà dit, mais je le répète ce matin. On peut sortir d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie de nous ? J'aimerais que ce matin, on demande au Seigneur, non pas comme cette femme elle l'a fait, mais comme cette femme elle l'a vécu. Elle a dit, donne-moi de cette eau, comme ça j'ai plus besoin de venir puiser. Mais finalement, Jésus lui offrira une source d'eau qui va tout changer pour sa vie. Elle n'a plus besoin de se cacher. Elle n'a plus besoin finalement d'éviter le regard des autres. Elle va même témoigner. C'est fort, hein ? Comme quoi, en quelques instants, dans la présence du Seigneur, tout peut changer. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, change ma vie ce matin ? Au point, Seigneur, que plus rien dans ma vie fasse résistance. Parfois, on résiste au Seigneur, on sait ce que Dieu attend de nous. Il y avait un homme qui venait à l'église avec son épouse, très gentil ce monsieur, hein, Benjamin. Et il venait tous les dimanches à la fin du culte, « Pasteur, le message était excellent. » J'ai dit, « Bon, une fois, deux fois, trois fois. » J'ai dit, « C'est trop excellent, là. » J'ai dit, « Benjamin, tu t'es baptisé quand ?»« Ah, ben, quand j'étais petit. » Alors, je lui explique, « Tu sais, Benjamin, le tout, c'est pas d'écouter le message, c'est d'être sûr que tu es sauvé. »« Ah, ben, moi, je suis sûr, je suis sauvé, Dieu est avec moi, il fait tout pour moi, tout va bien. » Ok. D'ailleurs, vous n'allez pas me voir, je vais partir en Afrique, je dois aller voir la famille. J'ai dit, Benjamin, que Dieu te parle. Et avant de partir, Benjamin achète un fourgon et il va voir tous ses voisins qu'ils avaient des trucs à envoyer et donc il remplit ce fourgon. Je pense que les quatre roues, elles étaient à plat. Et quand il arrive finalement de l'autre côté et qu'il faut décharger ce fourgon depuis le navire, il l'attache avec des sangles. Et Benjamin, il est sur le quai, heureux. Il se dit, pour moi, tout va bien. Il m'avait même envoyé un message, je vous assure, un message. Pasteur, tout va bien. Et les quatre sangles lâchent et le fourgon arrive par terre. Il s'éclate sur le bord, là, sur le quai. Ouais, je ne trouvais plus le mot. Et là, il me dit, pasteur, j'ai compris. Il m'a appelé direct. Il m'a dit, c'est pas grave ce que ça me coûte. Quand je rentre, ah, je dois me baptiser, j'ai compris. Des fois, il y a besoin de vivre certaines catastrophes dans notre vie pour comprendre. Jusque-là, il avait résisté. Vous savez, Benjamin, il a vraiment fait une expérience avec le Seigneur. Il s'est baptisé. Au jour de son baptême, il a ramené sa voisine. Sa voisine, elle est venue et Dieu a touché le cœur de sa voisine. Elle s'est baptisée, elle aussi. Et quand la voisine s'est baptisée, elle a invité sa fille. Et quand sa fille elle est venue, son cœur a été touché, elle aussi elle s'est baptisée, son mari s'est baptisé, ses enfants ils marchent avec le Seigneur. L'eau qui jaillit et qui produit. On peut incliner nos têtes ce matin ? Alors ça serait simple que moi je prie et que vous écoutez. Mais j'aimerais qu'on puisse tous élever nos voix au Seigneur. Le Seigneur arrive à nous entendre tous. Et on peut ensemble dire, Seigneur, je suis là devant tes pieds ce matin. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Oh Jésus, sois glorifié, Seigneur. Libère, Seigneur, les cœurs de toute timidité encore, Seigneur, ce matin. Seigneur, prends la place qui te revient, pas seulement, Seigneur, dans notre cœur, pas seulement dans notre vie, mais aussi dans notre bouche, Seigneur. Oh Seigneur, que nos bouches te louent, que notre cœur, Seigneur, t'exalte encore ce matin. Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur. Tu agis, Seigneur. Père éternel, je te prie encore ce matin pour ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience, Seigneur. Seigneur, tu puisses ce matin toucher leur cœur, Seigneur. Seigneur, tu puisses finalement, Seigneur, rentrer dans le cœur de tous ceux qui te cherchent vraiment, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Ô Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous finalement à goûter à l'eau de la vie. Aide-nous, Seigneur, à suivre le Seigneur qui est vivant. Ô Jésus, délivre-nous de toute formule de religiosité. Ô Seigneur, garde-nous de toute forme de paganisme, Seigneur. Ô Seigneur, nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas, Seigneur, encore dans des formes de comportement qui ne sont pas ce que toi tu cherches, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Jésus. Seigneur, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous voulons le donner encore ce matin. C'est notre cœur, Seigneur. Ô Jésus, glorifie-toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ta grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te louer. Aide-nous à, Seigneur, à t'adorer. Et Seigneur, nous désirons que ce qui anime notre cœur, c'est le feu qui vient du ciel. Que ce feu soit visible dans cette ville. Que ce feu soit visible dans les quartiers où nous habitons, Seigneur. Lorsque nous sommes, Seigneur, dans notre chambre et que nous te prions, Seigneur, que le feu, Seigneur, puisse embraser, Seigneur, encore notre famille, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te glorifions, Seigneur, encore pour la miséricorde dont tu fais preuve envers chacun de nous, Père. À toi, honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen.